Soyez les bienvenus sur RVB. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur RVB, votre radio complice en Dordogne.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac-Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale Porte de la Dordogne à Cresse.
RVB, RVCB.
Bonjour à tous et bienvenue sur RVB cet après-midi. Et désormais, bien chaque lundi, j'aurai le plaisir de vous accompagner sur votre radio pour votre nouvelle émission Chut, on écoute la télé, une émission qui va décrypter avec vous l'actualité télé, cinéma, musicale avec de nombreux invités que l'on va bien sûr vous dévoiler. Alors Chut, on écoute la télé, et bien c'est déjà toute la semaine à 9h30 et à 15h30 l'après-midi en rediffusion du mardi au vendredi, puisque le lundi on est là pour la grande émission hebdo de 15h à 16h. C'est donc désormais le rendez-vous hebdomadaire que l'on va vous donner. Je suis très heureux en tout cas de pouvoir vous retrouver ici pour ceux qui nous connaissent déjà. Et bah écoutez, on va commencer tout de suite par le sommaire de l'émission, si vous le voulez bien, et soyez les bienvenus sur RVB.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire, eh bien, de cette nouvelle édition de Chut, on écoute la télé. Aujourd'hui, nous allons lancer un appel pour voter pour votre plus beau marché sur TF1. Après l'Aquitaine et le Limousin, c'est le Poitou-Charentes, ce coup-ci à l'honneur avec Gérard Ponce, l'adjoint au maire de Rochefort, qui sera avec nous et qui va nous dire pourquoi voter Rochefort. Et puis, deux coups de cœur ciné aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Le premier, dans un instant, avec Michel Larocque et Stéphane De Groot, qui débarquent dans Chut, on écoute la télé pour nous parler du très beau film de Michel, justement, qui s'appelle Chacun chez soi. On va en parler dans un instant. Cécilia Cara également sera notre invitée exceptionnelle en milieu d'émission pour nous présenter son magnifique album Paris Bogota. On va en écouter plusieurs extraits. On va passer un bon moment, j'en suis sûr, avec notre héroïne de la comédie musicale Roméo et Juliette, qui nous offre vraiment son premier album solo très intime. Et puis en fin d'émission, deuxième coup de cœur ciné avec le film Des Hommes de Lucas Bellevaux. Nous allons recevoir Catherine Froh, qui sera notre invitée exceptionnel. Et puis nous aurons la jeune génération de comédiens qu'incarnent Jean-Pierre Darroussin, Gérard Depardieu, justement jeune. Il y aura Johan Zimmer, Félix Kissil et Édouard Sulpice qui seront nos invités en fin d'émission. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer. Beaucoup de cinéma, beaucoup de musique et beaucoup de bonne humeur aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Et tout de suite, c'est donc Gérard Ponce qui nous rejoint. C'est notre appel au vote.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et après Sarlat et Limoges, et bien maintenant c'est donc au tour de Rochefort d'être avec nous pour lancer les votes pour le Poitou-Charentes. Gérard Ponce, adjoint au maire de Rochefort, est justement avec nous. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors après Royan qui a terminé deuxième national du concours il y a maintenant deux ans, trois ans même, bien Rochefort, ça y est, c'est parti la candidature. Alors qui a été l'élément déclencheur de cette candidature au concours du plus beau marché à Rochefort?
Ah ben alors, l'élément déclencheur, ça a été un peu moi, bien sûr, puisque moi, le marché de Rochefort, c'est ma vie, j'y ai passé pendant 40 ans. Donc, on n'avait pas pu le faire quand Royan était compétiteur, puisque nous étions en travaux dans la rue. Donc, c'est pour ça que cette année, j'ai dit, on a motivé les commerçants, motivé les élus, motivé la ville, et on était partant pour faire ce de Rochefort un des plus beaux marchés de France.
Alors non seulement Rochefort est doté d'un des plus beaux marchés de France, mais aussi tellement de beaux monuments, entre l'Hermione, la Corderie Royale et tout ce qui se fait à Rochefort. Mais aujourd'hui, de quoi sont les plus fiers les commerçants du marché de Rochefort? Des halles, de la rue commerçante, de la grandeur? Parce que le marché de Rochefort, c'est aussi voilà une certaine grandeur. C'est un marché familial malgré tout aussi, où on peut s'y retrouver chaque mardi, jeudi et samedi.
Voilà, le marché de Rochefort, c'est mardi, jeudi, samedi. Vous savez que le marché, c'est un lieu de rencontre, un lieu de convivialité. Nous avons la chance d'avoir encore sur le marché de Rochefort des professionnels et puis les halles, bien sûr. Tout cela représente à peu près 200 commerçants. On a les Halles et on a toute la rue Charles de Gaulle qui est occupée un peu moins le mardi, mais jeudi et samedi, toute la rue est occupée et on a un très beau marché. Et c'est vrai que quand on rencontre les gens sur le marché, ils sont heureux d'y vivre, d'y participer. C'est ce côté convivial que les Rochefortais aiment. Et puis ça a toujours été un marché très important, Rochefort, en gamme de producteurs et surtout en gamme de prix, parce qu'on est un marché qui n'est pas cher. Par rapport à d'autres villes, on n'est pas cher.
Alors, c'est la ferveur est lancée, Gérard. Hein, ça y est, sur le marché de Rochefort, tout le monde est aux couleurs du plus beau marché là.
Voilà. Et puis on a motivé les commerçants. J'ai une équipe d'élus avec moi. On a fait faire des t-shirts au plus beau marché de Rochefort. Tout le monde a joué le jeu, aussi bien commerçants, élus que Rochefortais. L'atout que nous avons aussi, c'est que nous avons un parking gratuit, pas loin du marché, de 800 places. Et ça, c'est important parce que le marché, c'est quand même beaucoup de personnes âgées qui se permettent de laisser leur voiture toute la matinée gratuitement. Donc, c'est un atout supplémentaire. Tout le monde a joué le jeu et j'en suis très heureux. Et maintenant, donc, on a été élu le plus beau marché de Charente-Maritime. Et maintenant, on continue. Bon, on sera peut-être pas le plus beau marché de France, mais j'espère être dans le top 10.
Eh ben en tout cas, maintenant, Gérard, ça va être le moment. On fait l'appel au vote. Votreplusbeaumarché.fr, c'est le site internet où vous allez pouvoir aller voter. Alors Gérard, qu'est-ce que vous diriez maintenant aux auditeurs qui nous écoutent en Nouvelle-Aquitaine pour justement leur dire de voter Rochefort?
Eh ben votez Rochefort parce qu'il n'y a pas que le marché. Rochefort, c'est une ville extraordinaire. Il y a une équipe municipale qui est formidable parce qu'on est mené par un chef qui emmène bien ses troupes et puis qui est jeune et tout. Et puis, il y a tellement de choses à voir à Rochefort, entre l'Hermione, la Corderie, on va avoir Julie Gaillet. Il y a toujours des événements à Rochefort. Le marché fait partie du côté pittoresque de la ville. Alors, je dis à tous les Rochefortais et tous les auditeurs de ton émission, votez Rochefort. Et moi, qui suis un commerçant né à Rochefort, je serai le plus heureux des élus si Rochefort passait dans le top 10.
Eh bien voilà, vous avez maintenant les trois plus beaux marchés de Nouvelle-Aquitaine, c'est Sarlat, Limoges et Rochefort. Vous vous êtes fait votre propre idée, chers auditeurs, c'est le moment de voter maintenant votreplusbeaumarché.fr. Vos villes comptent sur vous et la région bien sûr. On est très très fiers de vous trois. Merci beaucoup Gérard d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Alain.
À bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui est consacré au film Chacun chez soi qui sort mercredi dans les salles et on a l'immense honneur aujourd'hui de recevoir Michèle Larocque, sa réalisatrice. Bonjour Michèle.
Bonjour.
Pour la deuxième fois dans l'émission après Brillantissime, je suis très heureux de vous avoir pour votre deuxième film en tant que réalisatrice. Et Stéphane De Groot qui est également un habitué de l'émission. Stéphane, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là, on va suivre les aventures de Catherine et Yann. On va beaucoup rire dans ce film en même temps, puis c'est tellement d'actualité de voir un peu ces enfants revenir au nid, puisque c'est un petit peu le sujet du film, c'est comment les enfants peuvent faire face à des difficultés et puis revenir chez les parents après avoir quitté le nid finalement.
Ben oui, et bon, il y a des bons et des mauvais timings pour ça, et là c'est pas un super timing, donc j'essaie de les rechasser du nid en fait dans le film.
Qui a eu l'idée au départ, Michel?
Alors, au départ, c'est un scénario qui était écrit par Julien Colombani et c'est des producteurs qui m'ont demandé donc de réaliser ce film. J'ai réécrit avec Stéphane Benlassen.
Ah oui, donc déjà, vous avez écrit donc à deux. Qu'est-ce qui vous inspirait dans ce sujet? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de y aller sur ce sujet-là?
Bah, c'est la famille.
Quelque chose de personnel un peu?
Non, c'est la famille. J'adore parler de la famille. J'adore. Il y a des enjeux vraiment importants dans une famille. Les enjeux affectifs, c'est des enjeux vitaux et j'aime et ça prête à des situations qui me plaisent. J'aime bien décrire ces repas familiaux et chacun. Parfois, on s'écoute pas vraiment dans ces repas et chacun a son propre rythme. Et j'aime énormément le personnage de Yann qui dit ce qu'il a envie de dire et qui n'a rien à voir avec la conversation qui est établie. Et il y a des grands blancs comme ça. Ça me fait profondément rire. Donc voilà, c'est ça qui me plaisait dans ce film.
Alors après, comment on construit cette famille avec les personnages? Est-ce que vous aviez déjà des comédiens en tête? Comment vous l'avez construit, vous, en tant que réalisatrice?
Bien, j'avais effectivement, je trouvais que Stéphane, il était extraordinaire pour jouer le rôle de Yann parce que c'est un personnage intelligent, c'est un personnage lunaire, mais en même temps, qui a une grande acuité. Puisque c'est lui, il voit tout dans la maison. Donc on pense qu'il plane, mais en fait, il est là, il gère tout. Et pour les enfants, j'ai une passion pour Alice de Langstin parce que c'est une actrice d'une vérité très rare. Et Olivier Rosenberg, je l'ai rencontré, parce que je cherchais un acteur à ce moment-là, et je l'ai découvert, et j'ai eu une chance folle. Sinon, les autres, donc Ionella Belansky, Vini Dargo et François Berléand, j'étais en train de jouer une pièce avec eux qui s'appelait Encore un instant, je suis arrivée dans les loges, j'ai dit, les gars, vous voulez bien faire mon film? Ils m'ont dit oui, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, parce que quand même, il y a trois rôles qui sont super, hein, superbement interprétés par eux.
Alors Stéphane, pour lequel la taille de bonsaï n'est plus aucun secret.
Aucun. Je connais tout du bonsaï.
Très technique, hein. En plus, hein, il y aura vraiment un discours très technique. Vous allez en apprendre beaucoup sur le bonsaï dans ce film.
Mais moi, je vais en apprendre beaucoup aussi. Oui, et puis les bonsaïs vont apprendre. En fait, les bonsaïs ont une oreille attentive, et donc je l'ai compris. Donc je leur parle beaucoup parce que ce sont mes complices dans ce film. J'ai cette passion assez étrange, assez saugrenue.
Et je dois dire qu'il a également une passion pour les pâtes.
Pour les pâtes, pour la forme des pâtes. J'ai une passion pour des choses assez bizarres. Je suis un type assez passionné. Je suis passionné par la passion.
Une passion pour la passion. Oui. Mais je soupçonne Stéphane Benlassen, l'auteur, parce que c'est lui qui avait écrit ces scènes-là, de faire ça chez lui.
Oui, bien sûr.
Je crois que c'est ça ce qui lui.
Il a dû mettre un peu de lui.
Il fait ça aux repas familiaux pour embêter ses enfants et tout ça. Et je pense que voilà, c'est ça. Et en plus, il adore les bonsaïs. J'ai quand même eu le bol de tomber sur un auteur qui adore les bonsaïs parce que c'était déjà dans le premier scénario.
Mais c'est toujours agréable pour un comédien d'avoir à composer quelque chose. Je me suis jamais imaginé un jour devoir parler à des bonsaïs. Donc c'est composé avec ce qui se passe sur l'instant et faire des câlins. Enfin, c'est Michel qui m'a demandé de faire ça. C'était quand même un peu. Ça traduit quand même pas mal l'état d'esprit de Michel. Et on en parlera plus tard tous les deux, hein, de la sanité de Michel. Mais non, c'est du coup ça se passe sur le moment. C'est de l'instantané. Vous découvrez à travers le scénario la manière dont vous devez appréhender, discuter, échanger avec un bonsaï. Ça fait partie du métier d'acteur et moi j'adore ça parce que il faut vraiment interpréter quelque chose.
Et ce que j'aime chez Yann, c'est sa fantaisie et son intelligence. Et je trouve que le couple marche parce qu'elle, Catherine, elle est très pragmatique, elle a les pieds sur terre, elle fait rouler les trucs et elle a besoin de sa fantaisie.
Lui est lunaire finalement.
Il est lunaire et il est drôle. Et donc quand il est moins drôle parce que il a ce petit down de plus travailler, et elle est en manque. C'est ça aussi qui la rend nerveuse, je pense. Et j'adore ça chez Stéphane parce que rien ne lui fait peur, quoi, quand je lui dis tu vas parler au bonsaï. Mais bien sûr, c'est normal. Oui. C'est normal. Et ça, j'aime qu'il fasse passer ça. Le fait que ce soit normal de parler au bonsaï.
Mais il y a un truc, c'est qu'il est assez serein, malgré tout, parce qu'il a réussi dans la vie.
Il est très calme, hein, vraiment, le personnage de Yann.
Il pourrait y avoir un tremblement de terre à côté de lui et il va aller voir sa femme en disant est-ce que tu sais pas où il y avait une brosse? Parce que.
La bande-annonce, on l'écoute tout de suite, chacun chez soi. Ça sort mercredi au cinéma et on ne le rate pas. C'est le deuxième film de Michel Larocque. On écoute.
Papa?
Ah, mais c'est ma toutou. J'ai failli oublier de vous annoncer la grande nouvelle. Anna et Thomas vont venir habiter à la maison.
Quoi? Deux couples au même endroit, ça marche jamais.
Je te rappelle que notre fille est à la rue.
Non mais ils sont gentils, mais c'est bon là. Les miettes dans le Nutella, les fringues partout par terre, ça va, j'ai déjà donné, non? Tu sais, les gosses, c'est comme des cafards. Il fait chaud, il y a à boire, il y a à bouffer, ils partent plus. Il faut que tu leur pourrisses la vie. Oh, oh, c'est dégueu ça. Mais non ma chérie, ça c'est ton café d'hier qui a séché, c'est rien. Sinon tu l'aurais mis dans le lave-vaisselle. Tu les réveilles à pas d'heure. Maman, putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je fais 10 km à 10%, je te dis pas comme je mens. Ça
je suis sous la douche, je voulais pas faire un salin verrou aussi.
Pourquoi faire?
Il est un peu gênant là.
Eh ben oui, en plus regarde, il a froid le pauvre.
Voilà, je vous avais promis, vous allez rire aussi dans ce film. Et puis en même temps, ça touche à, voilà, on disait un sujet d'actualité. C'est le retour des enfants au nid après qu'ils l'aient quitté. Et des fois, ben effectivement, les difficultés peuvent faire que les enfants, eh bien, reviennent chez les parents. Et là, c'est un problème de timing. Et on va s'apercevoir, eh bien, que Catherine va mettre vraiment tout en œuvre pour essayer de les dégoûter, de les faire partir finalement. Et c'est ce qu'elle va essayer pendant quasiment tout le film. Et en même temps, eh bien, ça nous permet de voir qu'on peut aimer, mais qu'on veut aussi, eh bien, son indépendance. C'est ça aussi qui est la morale du film.
Oui, parce que Catherine a envie de retrouver son couple, et puis aussi, elle n'a pas envie de déstabiliser sa fille, Catherine. Alors, c'est pas dit dans le film, mais elle ne veut pas que Anna voit son père un peu affaibli. Ça, c'est aussi une raison pour laquelle elle veut les mettre dehors.
Stéphane, comment on garde son calme sur certaines scènes? Ce que vous allez voir dans le film, hein, on va pas spoiler évidemment, mais évidemment, il y a des scènes où moi, je me demande comment vous avez fait pour garder le calme, quoi.
Par rapport au personnage?
Oui.
Mais parce que c'est le personnage. Quand vous avez un personnage qui est bien dessiné, vous le gardez, vous avez mis le costume du personnage, et puis c'est le personnage qui vous emmène dans les situations que vous jouez. Et si vous êtes cohérent avec ça, si vous êtes sincère, si vous êtes complètement investi et concentré sur ce que vous vivez, eh bien, moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait beaucoup d'impro à l'époque. Quand vous faites une impro, vous devez créer un décor, le rendre visuel, le concrétiser de manière très abstraite pour le spectateur dans la salle. Et un jour, je décide de faire un fermier qui va traire une vache et je tire ma vache, je tire un tabouret, je m'assieds sur le tabouret pour traire la vache. Et tout d'un coup, je me dis, mais je me suis vraiment mal disposé parce qu'en fait, le public est derrière la vache et ne me voit pas. Donc, j'avais tellement imaginé la vache.
C'est dingue, hein, ouais.
Que j'ai fait le tour. J'ai dit, excusez-moi, et j'ai mis la vache sur le côté. Je me dis, comme ça, on peut se voir. Mais pour moi, la vache, elle était là, je la voyais complètement. Mmh. Alors qu'il y avait rien. Et c'est un peu ça qui se passe. Pourquoi il s'énerve pas? Mais parce qu'il visualise tellement, il est tellement imprégné de ce qu'il doit faire que c'est, il est cohérent avec son personnage.
Mmh. Un peu comme sur Brillantissime. Comment on fait pour être devant, derrière la caméra et arriver à tout gérer, Michel, sur un tournage comme ça?
D'abord, j'avais une équipe encore extraordinaire, donc ça c'est rassurant. Et puis je savais exactement ce que je voulais. Et quand on joue et qu'on réalise, on est au centre du plateau, donc c'est pas si compliqué que ça, je trouve.
Ouais, parce que justement on est dedans.
Ouais, on est dedans, on voit tout. Et puis je veux dire, j'avais pas de difficultés énormes, quoi. Il y avait des acteurs fabuleux. J'ai d'autres projets là de réalisation, je ne jouerai pas, mais ça va me manquer de pas jouer.
Il y a une scène particulière qui vous aura marqué dans ce film? Je pense à des scènes de repas où il y a beaucoup de monde, par exemple, à gérer ou des choses comme ça.
Oui, mais non, à gérer c'était facile, mais c'est juste que j'adore les scènes de repas. J'adore ce moment-là au petit déjeuner où Yann dit, on sait pas pourquoi, tout d'un coup ça sort comme ça. Ce qui est drôle avec les pâtes, c'est que suivant leur forme, ça n'a pas le même goût. Et là, il y a un long blanc et on passe donc sur Olivier Rosenberg, donc le beau-fils qui veut séduire quand même son beau-père, hein, donc qui essaie de trouver vite quelque chose à répondre, mais qui est un peu désarçonné par ça, et ça me fait hurler de rire. Et puis en plus, lui qui ne s'arrête plus après de parler des pâtes, et tu te dis, oh, parce qu'il les emmène à Paris, on est en dehors de Paris, tu te dis, mais mon Dieu, dans la voiture, il va faire une heure sur les pâtes, ils n'en peuvent plus, les enfants. C'est ces moments-là que j'adore.
Moi, c'est la scène avec le psy et François Berléand, qui est juste formidable parce qu'il dit pas grand-chose, et à travers sa manière de jouer, oui. Il dit tout. Et ça a été un bonheur. Ben, moi, j'ai plein de scènes que j'aime beaucoup, mais oui. Celle-là, je la pointe parce que comme ça me permet de parler de cet acteur que j'admire, que j'adore, qui est François Berléand.
Exactement. Je suis bien d'accord aussi.
Ah oui, moi, j'ai été très gâtée par ce casting-là, oui.
Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, n'oubliez pas, donc, le film sort mercredi dans les salles. Et je vous le conseille vivement. Merci.
Merci.
À bientôt.
Bien dormi? Super, et toi?
Non, on va pas faire l'amour en se bouchant les oreilles.
Elle a complètement compris mon petit manège, hein.
Je te fais un petit joie de vivre?
Ah non, ça va, merci, t'es un amour.
Et si tu draguais ton beau-fils?
Ça va pas, écoute, je vais pas draguer mon beau-fils.
Oh là là, tu me fais du bien.
Ah la pute. Ah la pute, tu vas voir ce que je vais lui faire.
Famille de dingue.
On marque une pause, Cécilia Cara arrive tout de suite dans Chut, on écoute la télé, alors ne bougez pas.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite.
RVB, FM Radio.
Et merci d'être avec nous sur RVB, la radio complice, et voici tout de suite le nouveau Chi, elle est là.
On se voit aujourd'hui, je te dis demain, je sors de mon lit, il est 15h du matin, j'ai raté ma vie, et même mon train, à votre avis. Est-ce que je vais bien? On dit que la nuit porte conseil. Comment on fait quand il y a le soleil? Je me recouche dès que je me réveille, mais il y a cette voix dans mes oreilles. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas? Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là, allez là. Mais moi sous vide, je crois que je vais crever. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver. J'ai mal au bide, à force de penser. Je vis mes souvenirs pour m'en rappeler. Mon propre silence fait du bruit. pourtant je danse toute la nuit. Je n'ai plus confiance en la vie. Pourtant il y a cette voix qui me crie: allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas. Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas. Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies. Allez là.
Chut, on écoute la télé, le Talk Show Radio. L'album de la semaine.
Allez, coup de cœur album. Aujourd'hui, il est sorti il y a une dizaine de jours dans les bacs. Le premier album solo de Cécilia Cara. Il s'appelle Paris Bogota et c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Cécilia. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir de t'avoir, Cécilia. On t'a découvert dans la comédie musicale Roméo et Juliette. Et j'avoue qu'on ne vous a jamais oublié tous les deux avec Damien Sargue. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir de te voir sortir ton premier album solo.
Ben merci, ben je suis ravie aussi d'être avec vous aujourd'hui et je suis également ravie et très heureuse que cet album qui me tient tant à cœur voit le jour.
C'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps. Tu voulais vraiment un album qui te ressemble ?
Ah, complètement, complètement. Déjà, j'aime la musique latine depuis que je suis toute petite. La musique latine a bercé mon enfance, mon adolescence. J'ai beaucoup dansé les danses latines et c'est vraiment une couleur que j'avais envie de donner à cet album, de créer une vraie fusion entre la musique latine et la pop moderne, et la fusion aussi entre les langues, entre le français et l'espagnol, qui est une langue que j'adore chanter aussi. Et donc oui, il a fallu du temps pour écrire, pour composer, pour rencontrer les bonnes personnes, pour aussi un petit peu voyager et partir en Amérique latine pour pouvoir m'inspirer exactement, et puis aussi savoir si j'avais cette place là-bas, si je pouvais être intégrée en tant que Française dans un monde purement latin. C'était important pour moi et j'avais envie de faire de la vraie belle musique. Donc il a fallu du temps, oui, il a fallu du temps pour le peaufiner. Et puis c'est un album que je porte à bout de bras, c'est un album que j'autoproduis, j'ai monté mon label, je me suis investie à tous les niveaux pour cet album. Donc oui, comme il y a beaucoup de travail à tous les niveaux, ça prend du temps. Et puis de faire les choses bien, de travailler au mieux et qu'il soit au plus proche de ce que j'ai envie de donner, de sa couleur, des messages que j'ai envie de transmettre aussi. Voilà, il a fallu beaucoup de temps, mais je suis très heureuse, j'ai beaucoup appris et je suis très très contente et fière du résultat.
En tout cas, tu le sors au bon moment parce que franchement, c'est un album qui va nous donner envie de danser tout l'été.
C'est l'objectif. J'avais vraiment envie avec cet album de transmettre le plaisir et le bonheur que moi j'ai ou j'ai eu à écouter certaines musiques latines ou certaines musiques ou chansons qui m'ont en fait donné du baume au cœur ou donné envie de danser dans la rue ou mille sourires aux lèvres. C'est vraiment ce que j'avais envie de transmettre dans cet album.
Alors moi j'ai un titre coup de cœur, c'est Paris Bogota, et évidemment ça a été un des premiers singles et c'est aussi le nom de l'album. On s'écoute un extrait tout de suite ?
Avec plaisir.
On écoute. Voilà, Paris Bogota, c'est vraiment un titre, voilà, je le disais, qui nous donne envie de danser. Pour le coup, tu as voyagé, donc tu le disais, en Amérique latine pour pouvoir trouver un peu l'inspiration. Est-ce que tu es une amoureuse en même temps de l'Amérique latine? Est-ce que tu as un pays qui t'a vraiment séduit particulièrement quand tu as voyagé là-bas?
Bah en fait, pour être tout à fait honnête, je ne connais que la Colombie pour le moment. J'ai voyagé en Colombie, surtout voilà, dans différentes villes, parce que j'ai des équipes dans différentes villes, à Bogota, à Medellin, à Cali. Et l'Amérique latine m'attire énormément. Il y a plein d'endroits que j'aimerais encore découvrir. Mais je ne suis allée qu'en Colombie pour le moment.
Ah bah c'est bien, écoute, il y a encore plein de choses à découvrir, au moins pour un autre album comme ça.
Tout à fait, tout à fait. Mais déjà, la Colombie est très foisonne de richesses musicales. Enfin, il y a énormément d'instruments, de styles musicaux, de la cumbia, la bachata, ouais. Ben, voilà, au vallenato. Il y a plein de styles, des instruments, les guitares andines, la gaita, qui est une flûte typique colombienne, qu'on entend d'ailleurs dans Ma Mater. C'est très, très riche. C'était passionnant vraiment de partir là-bas et de rencontrer des musiciens et de voir leur façon d'écrire, leur façon de travailler, qui est différente de la nôtre et qui est très intéressante, très enrichissante.
Alors, tu le disais que tu avais envie de porter des messages justement avec cet album. Quels sont les principaux messages que tu as envie de porter à travers tes musiques?
Alors, il y a plein de choses, plein de messages que j'ai eu envie de transmettre, plein de messages d'amour tout d'abord, puisque bon voilà, la plupart des chansons parlent d'amour au sens large. Je parlais de la tolérance aussi. J'aime beaucoup raconter des histoires, donc voilà, dans Toi et moi, c'est une histoire d'amour qui se passe il y a quelque temps, entre une sorte de Roméo et Juliette. Voilà, vous écouterez, vous comprendrez tout de suite.
Un petit clin d'œil, quoi.
Je parle aussi, un petit clin d'œil, mais voilà, qui n'a rien à voir avec Roméo, mais vous verrez. Et puis un message important pour moi que j'ai essayé de transmettre dans Ma Mater, qui est un message qui situe plutôt au niveau de l'écologie, ouais. du climat, de l'urgence dans laquelle on est. C'est quelque chose qui me tient à cœur et j'avais envie de l'écrire dans une chanson, mais pas de façon accusatrice. J'avais envie de le tourner d'une façon joueuse, d'une façon légère, voilà. Mais en même temps, le message est quand même important. Le message, il est présent, il est actuel. Et voilà. Et on fait de la musique aussi pour essayer de, voilà, comme vous dites, de transmettre des messages, d'essayer de faire avancer les choses aussi, parce que c'est top d'avoir envie de danser, de passer des bons moments, d'entendre de la belle musique. Mais si en plus on peut écrire des textes, voilà, qui parlent, c'est encore mieux, je pense.
Oui. Et puis là, c'est encore mieux de l'écouter. Qu'est-ce que t'en penses?
Avec grand plaisir.
Eh ben, on écoute Ma Mater tout de suite dans Chute, on écoute la télé. C'est Cécilia Cara qui est notre invitée aujourd'hui. On l'écoute.
L'eau que je bois est belle et trop limpide. Je me noierai bien dans les pesticides. Quand le ciel devient sombre, que le soleil grimace, je ne suis plus qu'une ombre. S'efface quand il sera trop tard, que plus rien n'y fera. Peut-être bien qu'un soir on se demandera où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va. Ma mater, regarde-moi. Je ne suis qu'un enfant qui veut de toi. Toujours mieux, toujours plus, pour qui, pourquoi. Mais sans voir que l'essentiel est là. Ma mater, ma terre à moi. Ma mater, tu t'élèves et tu te bats. Tu te bats pour moi qui te bats. Pas de moi et de ma
Allez, de retour, Ma Mater, un vrai message porté par Cécilia Cara, notre invitée aujourd'hui, qui vient de sortir un très bel album que je vous conseille vraiment pour votre été. Ça s'appelle Paris Bogota, un album qui a été fait vraiment avec le cœur. Et quel plaisir d'entendre chanter hors comédie musicale, parce que t'en as fait quand même, mais je sais plus, 6 ou 7. Alors t'as pas battu le record de David Bann, hein, qui est l'homme aux 12 comédies musicales, mais franchement déjà t'en as fait quand même pas mal, hein.
Et on en a fait quand même 2 ensemble avec David.
Ah ben voilà.
On a fait Grease et on a fait Il était une fois Joe Dassin. Voilà. On a partagé la scène quelques fois et on a passé vraiment de très très bons moments sur scène, en tournée. Enfin, David, c'est un super camarade sur scène, dans la vie. Enfin voilà, c'est toujours très agréable.
Et on l'embrasse très fort. Je sais qu'il nous écoute de temps en temps et il est en plein tournage de l'intrigue d'été de Plus belle la vie en ce moment du côté du Var. Donc on l'embrasse très fort là-bas. Cécilia, cet album, tu le disais, tu l'avais fait vraiment avec le cœur. Il t'a pris combien de temps, mine de rien, entre l'écriture du premier titre qui était prêt jusqu'au moment où t'as écrit le dernier, où t'es passé à l'enregistrement?
Eh ben, il s'est passé du temps. Non, ça a été un long, long processus. C'est une longue, longue histoire dont je vais faire un gros résumé. Mais la toute première fois où je suis partie en Colombie, c'était en 2015. Donc, ça va faire 6 ans quand même. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à travailler sur l'album. Et je n'ai pas commencé par écrire une chanson. J'ai repris une chanson. La toute première chanson que j'ai enregistrée, c'est le seul cover, c'est la seule reprise de l'album qui s'appelle Clio Famos. Et en fait, lors de ce premier voyage en Colombie, j'ai entendu cette chanson jouée à la guitare par un jeune homme et je suis complètement tombée amoureuse de ce titre. Donc je lui dis, mais c'est quoi cette chanson? Il me dit, mais bah, en fait, c'est une chanson très connue, c'est un peu l'équivalent de l'hymne à l'amour là-bas. Et c'est 3 chanteurs très connus qui l'ont sorti en 1958. Il s'appelle le trio Los Panchos et moi j'ai un coup de cœur absolu pour cette chanson et je me suis dit je veux la reprendre, je veux la réarranger dans une version boléro, toujours acoustique, sans trop la dénaturer mais en lui donnant quelque chose de plus dansant. C'est pour ça que j'ai rajouté un pont cha-cha-cha dedans, enfin voilà, vous écouterez dans les arrangements, il y a quelque chose d'un peu plus dansant, un peu plus rythmique et c'est la première chanson que j'ai enregistrée. Et puis la suite s'est enchaînée parce que j'ai rencontré les bonnes personnes là-bas et on a fait ça, voilà, on a fait ça, on a pris le temps parce que c'est pas évident quand on est à distance.
Ah oui.
Et j'ai fait plusieurs voyages et voilà, et cet album est né.
Quelles sont les personnes que tu as envie de remercier là maintenant, qui ont collaboré et sans qui cet album n'aurait jamais vu le jour? Parce que c'est une équipe toujours avant tout et on a toujours envie aussi de citer ces personnes-là généralement.
Exactement, exactement. Bah écoute, en fait, j'ai la chance d'avoir été entourée et soutenue par des personnes incroyables. Comme je le disais, je suis en autoprod, j'ai monté mon label, ma prod, je fais beaucoup, beaucoup de choses seule, mais évidemment, je ne suis pas toute seule. Oh là là, j'ai envie de remercier tellement de gens, mais tellement de gens. Une des personnes vraiment qui a fait le lien de toutes ces chansons, parce que j'ai collaboré avec des artistes en Amérique latine, avec des artistes en France, des auteurs-compositeurs. Pour créer cette homogénéité, bah, il a fallu une sorte de chef d'orchestre avec qui j'ai travaillé vraiment main dans la main, comme mon binôme. Ça a été, encore une fois, ma plus belle rencontre cette année. C'est Fred Lapage, voilà, qui est mon directeur musical de l'album, que j'aimerais remercier. Il y a tellement de gens que j'aimerais remercier. J'aurais tellement peur d'oublier, d'oublier des personnes.
Eh bien, tu remercies tous ceux que tu oublies maintenant, on va dire.
Voilà, je remercie tous ceux que, voilà. Mais en tout cas, dans la durée de l'album, il y a tous mes remerciements, normalement. Et ils sont assez nombreux. Et voilà. Et j'ai beaucoup de chance.
Bon, quel extrait que tu as envie de nous faire partager maintenant?
Eh bien, j'aimerais bien qu'on écoute Mea Sarquato Boca, le remix qui a été fait par le DJ Steve Watt.
La classe. On l'écoute maintenant?
Avec plaisir.
C'est parti. Retour, Cécilia Cara, qui est toujours notre invitée. On parle de ce très bel album Paris Bogota avec toi, Cécilia. Question que j'ai envie de te demander aussi, est-ce qu'il y a des titres que tu as laissés un peu sur le bord de la route pour le moment, afin de les garder pour un éventuel deuxième album par la suite, ou est-ce qu'il a fallu que tu fasses des choix, en tout cas, sur les titres que tu mettais dans cet album?
Alors en fait, non, parce que je me suis vraiment consacrée à chaque titre, à chaque fois, je les ai soignés tous autant les uns que les autres. Du coup, j'ai tout mis. Voilà, je savais à chaque fois dans quelle couleur je voulais aller, de quel style musical, quelle fusion. Voilà, donc vraiment, j'ai pas eu à choisir. J'ai mis tous les titres que j'ai écrits pour cet album. En revanche, j'ai très envie d'en écrire d'autres. Ça va être assez imminent, je pense.
Tu mets pas 20 ans.
Ah non, non, promis.
Bon, une autre facette qu'on connaît de toi, évidemment, c'est la facette comédienne. Et alors, moi, on me cache pas grand-chose quand même dans la région. Et je sais que tu es venu tourner du côté de chez nous en Nouvelle-Aquitaine et du côté d'Angoulême il y a pas très longtemps.
Oui.
Un téléfilm qui s'appelle Le Prix de la Trahison aux côtés de Mimi Mati, notamment.
Exactement, oui, oui. En novembre dernier, j'ai tourné ce téléfilm, c'était super, c'était une super expérience, j'étais ravie de retrouver Mimi. On avait eu la chance de faire un très beau Joséphine Ange Gardien qu'on avait tourné à Prague.
Ouais.
Et voilà, et là, c'était top de se retrouver, et puis j'étais tellement heureuse de pouvoir tourner. C'était une chance surtout vu la situation actuelle, et l'équipe était formidable, et c'était un super tournage, et j'ai hâte de voir le résultat.
Si on te proposait un rôle dans une quotidienne qui prend beaucoup de temps, comme Demain nous appartient, Ici tout commence, Plus belle la vie, comme David là est aussi, est-ce qu'il y en a une particulièrement que t'aimerais intégrer?
Oh là là, bah en fait non, pas une en particulier. Ça dépend, je pense, du rôle.
Du rôle.
De
ce que tu auras à défendre.
Rôle et de... Exactement. Je pense que c'est ça qui nous intéresse, nous les comédiens, c'est de savoir voilà, est-ce que c'est pas forcément le fait que ce soit un gros rôle ou un petit rôle. Je pense que c'est surtout ce qu'on a à défendre qui nous motive, qui nous enthousiasme. Et voilà. Donc non, j'ai pas de série en particulier qui me plairait.
Bon, on te retrouvera bientôt, en tout cas, dans le prix de la trahison sur France 3. On aura l'occasion peut-être d'en rappeler. On se rappellera à ce moment-là, au moment de la diffusion, si tu veux. Et puis, on découvre ce très bel album qui s'appelle Paris Bogota. C'est l'album qui va vous faire danser tout l'été. Je vous le dis, on vous a fait déjà découvrir 3 extraits. On va en faire découvrir un 4e. Lequel, maintenant, t'as envie de nous faire partager avant de se quitter, Cécilia?
Eh bien, j'ai très envie qu'on écoute Colibri.
Eh bien, écoute, moi aussi, j'ai très envie d'écouter Colibri. On l'écoute maintenant. L'album est dans les bacs. Alors, profitez-en si ça vous a plu. Eh bien, c'est le moment de faire marcher les artistes, surtout les artistes qui travaillent aujourd'hui avec le cœur, qui sont en autoprod. Ils ont besoin, plus que jamais, de vous. L'album, vous le retrouvez en physique dans tous les bons espaces culturels et puis aussi, également, en téléchargement sur toutes les plateformes légales. Voilà, Cécilia. Merci à
Exactement.
Toi.
Exactement. Merci beaucoup, merci à toi.
Et puis on va écouter tout de suite dans Colibri, dans Chut, on écoute la télé, Cécilia Cara qui était notre invitée.
Ce sentiment comme un battement d'ailes me fait virevolter dans les airs tout là-haut. Je peux contempler la dentelle de nos pas mouillés sur le sable chaud. Il m'inspire la saveur d'un baiser, tes lèvres suaves comme un bec à sa fleur, de ce sourire doux et apaisé. Il aspire le nectar de mon cœur, les mots qui glissent de ta bouche sont comme un poème qui fait mouche et me transporte à chaque fois dans un rêve bordé de tes bras.
Voilà, on vous faisait découvrir l'album de Cécilia Cara, magnifique album intitulé Paris Bogota que je vous invite à vous procurer, non seulement sur toutes les plateformes de téléchargement légal et également dans tous les bons espaces culturels. J'espère qu'on vous a donné l'eau à la bouche et qu'on vous a fait voyager. Et puis dans un instant, eh bien, on va continuer notre voyage en cinéma avec le film Des Hommes. Nous allons recevoir du beau monde avec Catherine Froh, mais également Johann Zimmer, Félix Kiesil et Édouard Sulpice pour nous parler de ce très beau film de Luca Bellevaux qui sort donc mercredi dans les salles. Alors à tout de suite, bougez pas.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
RVB, RVB.
Et je vous offre la pause café avec RVB, la radio des nouveautés, avec le nouveau 3 Café Gourmand, une seule vie.
Une vie, c'est pas assez, il en faudrait 10 au moins. Une vie, qu'est-ce qu'on en fait si on la commence par la fin? Une seule vie, c'est pas assez, il en faudrait des milliers. Une seule vie, c'est pas assez. Si on la vit à moitié,
il y aura tant de choses à faire et puis à vivre, tant de douleurs à effacer pour reconstruire.
On ira découvrir des saveurs oubliées, voir d'autres lunes et faire rougir d'autres étés.
Il y aura tant d'idylles, d'espoir au coin du feu, tant de plaisir d'un soir futile et langoureux.
tant de savoir à dire pour avoir l'air plus grand,
tant de bêtises à faire pour rester des enfants.
Une vie c'est pas assez,
il en faudrait 10 au moins.
Une vie qu'est-ce qu'on en fait
si on la commence par la fin?
Une seule vie c'est pas assez,
il en faudrait des milliers.
Une seule vie c'est pas assez
si on la vit à moitié.
Il y aura tant d'autres valeurs à apprendre, tant de mots, des mots jetés pour se défendre,
tant de poèmes à répéter devant la glace,
tant de cahiers à gribouiller au fond de la classe.
Il y aura tant de crises de larmes et puis de rires,
tant après votre sort madame que je vais courir,
tant de lettres d'amour écrites pour se confier,
tant de murailles dépoussiérées pour avancer.
Une vie c'est pas assez,
il en faudrait 10 au moins.
Une vie qu'est-ce qu'on en fait
si on la commence par la fin?
Une seule vie c'est pas assez,
il en faudrait des milliers.
Une seule vie c'est pas assez
si on la vit à moitié.
Tant qu'il est temps, saisissons-les tous les instants,
vivons présent chaque lueur de chaque printemps,
usons nos corps sur des segments tous différents,
livrons nos cœurs même quelques heures au coup de vent.
Une vie c'est pas assez, il en faudrait 10 au moins.
Une vie qu'est-ce qu'on en fait si on la commence par la fin?
Une seule vie c'est pas assez, il en faudrait des milliers.
Une seule vie c'est pas assez si on la vit à moitié.
Une vie c'est pas assez,
il en faudrait 10 au moins.
Une vie qu'est-ce qu'on en fait
si on la commence par la fin?
Une seule vie c'est pas assez,
il en faudrait des milliers.
Une seule vie c'est pas assez
si on la vit à moitié.
RVB
FM Radio.
FM Radio.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui est consacré au film Des Hommes de Lucas Bellevaux qui sort mercredi au cinéma. Et on a bien de la chance aujourd'hui puisqu'on a une de ses héroïnes, Catherine Fraud, qui est avec nous, qui est bien connue en Nouvelle-Aquitaine, notamment du côté de Rochefort. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ça nous fait plaisir de vous avoir. On va recevoir également les héros jeunes de cette histoire d'ici quelques instants. Mais d'abord, Des Hommes. Et on vous reçoit vous, Catherine. C'est assez drôle.
Où
mais,
sont les femmes?
Mais voilà, on va parler de Solange, évidemment, dans un instant. Mais Des Hommes, ben c'est l'histoire d'un frère, d'une sœur et d'un cousin qui vont se raconter tout au long de ce film.
Ouais, absolument. C'est une histoire sur la mémoire. Parce que ça se passe pendant la guerre d'Algérie, où des jeunes gens partent faire la guerre sans comprendre bien ce qu'ils font. C'est-à-dire la guerre d'Algérie, ça a été le problème de la guerre d'Algérie, c'est qu'il y a une énorme incompréhension. Peu de combattants là-bas qui revenaient dans leur région en France, personne ne parlait. Il y avait une sorte de loi du silence, d'omerta. Et c'est vraiment quelque chose qui a laissé des traces. C'est l'histoire d'un traumatisme puissant, car il n'a jamais été expliqué. Et donc, ici, ou très peu. Et donc, voilà. Et c'est l'histoire d'un de ces jeunes gars qui, 40 ans, 50 ans plus tard dans l'histoire, est interprété par Depardieu, qu'on appelle Feu de Bois dans le film, parce que c'est un être qui est devenu hallucinant, presque monstrueux.
Incontrôlable
et vraiment est rejeté par tous les membres de sa famille, sauf par sa sœur. Sa petite sœur, que je joue, va faire ce travail de mémoire en recherchant les lettres qu'il lui écrivait à l'époque. Elle était petite et lui écrivait des lettres. Et elle essaye de recomprendre le sens de l'histoire pour voir qu'est-ce qui a pu se passer, comment cette guerre a été vécue pour en arriver là.
Et au moment où il s'apprête à connaître le pire, mais on le dira pas plus pour pas spoiler, bien évidemment. Mais voilà, c'est toute une nuit et toute une vie qui se raconte en une nuit, justement, à travers ces lettres. Qu'est-ce qui vous a plu, justement, dans ce projet, Catherine?
Ce qui m'a plu, c'était de travailler avec Lucas Bellevaux, qui est un très, très bon metteur en scène. J'avais déjà travaillé avec lui sur une trilogie qui s'appelait « Un couple épatant cavale après la vie ». Et moi, j'étais plutôt dans Cavale, mais les acteurs, on se retrouvait dans ces trois films, curieusement. Et ça avait été un beau succès à l'époque, il y a 15 ans, 20 ans, ouais, pas loin. Donc j'étais heureuse de retravailler avec lui. J'ai vu presque tous ses films. Et voilà. Et puis aussi ce thème. Et puis une partition assez particulière à jouer, parce qu'on est tout le temps dans des flashbacks, dans des voix off. C'est le phénomène de la mémoire qui arrive par bribes, où tout à coup on se souvient de ci, de ça, et c'est des morceaux de vie. Et c'est à travers cette femme qui va essayer de retrouver ce qui s'est passé pour comprendre ce que ces hommes sont devenus.
Alors on sait ce qui est capable évidemment de nous proposer Gérard Depardieu, mais là quand il arrive à cette fête d'anniversaire pour vous offrir cette broche, il ouvre en quelque sorte la boîte de Pandore. Et c'est là que tout part en vrille, il offre une prestation vraiment pour un anniversaire cataclysmique, hein, on peut dire ça.
Ouais.
Ça démarre comme ça en fait.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il vous a impressionné?
Ah,
vous
oui.
Le connaissez un peu le GG quand même?
Bah, je le connais un peu, j'avais tourné dans Boudu il y a quelques années de Gérard Jugnot avec lui. Et donc je le connaissais un peu. Et voilà, oui, mais il reste très impressionnant, mais c'est un tel acteur pour moi. C'est jouer avec lui, le regarder dans les yeux, le ressentir, c'est fantastique.
Et Jean-Pierre Darroussin, bien sûr, aussi.
Hein,
vous formez un trio tous les trois.
Voilà, que j'ai connu toute jeune aussi, que je connais bien aussi.
Catherine, qu'est-ce qu'il faut qu'un projet ait en premier pour vous plaire, qui vous fait dire j'y vais, j'ai envie de le faire?
Je pense quand même le personnage compte beaucoup.
Ouais.
Faut que je m'y retrouve. Faut que je puisse mettre un peu de moi quand même. Faut que je sache quoi faire avec. Donc pour moi, le personnage compte beaucoup. Et puis, bien sûr, le réalisateur, la complicité que je peux avoir et en même temps la liberté qu'il me donnera. C'est un peu les deux. Et les partenaires. Voilà, c'est quand même une histoire commune qu'on fait ensemble. C'est un drôle d'objet, le cinéma. Et en même temps, c'est un puzzle. On est maître de rien. On tourne un jour ça, le lendemain, rien à voir. C'est spécial. Et j'aime beaucoup ça.
Moi, ce qui m'a impressionné, et c'est là qu'on voit quand même le talent d'une comédienne, c'est toute la tirade que vous avez sur plusieurs minutes, où vous avez un dialogue, enfin c'est même pas un dialogue, c'est un monologue pendant
oui,
plusieurs minutes, qui est absolument hallucinant. Combien de prises a été fait cette scène?
On a fait des morceaux plus ou moins longs.
Ouais.
Et puis en même temps, on reprenait des bouts. Vous voyez, au cinéma, on peut découper, s'arrêter, reprendre.
Ben, c'est ça.
Mais on a quand même fait des gros, gros morceaux. J'ai plus de 5 pages de texte, en fait. Et là, c'est presque une logorée de paroles qui sort d'elle comme une nécessité
oui, hein.
absolue. C'est la mémoire en marche.
Ça m'a marqué.
Ah bah oui,
en voyant la scène, je me suis dit, mais la pauvre, mais comment elle a fait pour vraiment bien assimiler tout,
déjà,
ça,
fallait retenir tout ça, prendre tout ça d'un coup. Voilà. Mais bon, finalement, au théâtre, c'est comme ça, on apprend des tonnes
c'est
de
vrai.
Textes. Hein. Il faut du temps, on s'y prend à l'avance, ça fait partie du métier, on mémorise.
Comment on se prépare à un rôle comme celui-là? On se documente un peu sur la guerre d'Algérie, comment vous avez fait vous?
Oui, bien sûr, beaucoup parlé quand même avec Lucas Bellevaux sur le pourquoi il faisait ce film-là, lui. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Qu'est-ce que c'était que la guerre? Moi, je suis pas du tout historienne. J'avoue. Finalement, j'étais comme beaucoup de gens, je ne savais rien de cette guerre qui a quand même été considérée comme la sale guerre parce que c'est une guerre où tout le monde s'est entre-déchiré. Les Algériens se sont déchirés entre eux, les Français se sont déchirés entre eux. Et il y avait des. C'est difficilement explicable. Et sûrement pour ceux qui ont combattu, ça devait être épouvantable. Parce qu'on leur a dit, vous allez faire votre service là-bas, votre service militaire là-bas. Vous avez 20 ans, vous allez rester 18 mois. Puis finalement, ils sont restés 3 ans dans une boucherie épouvantable.
Et c'est peut-être une des guerres qui a été le moins traitée justement en fiction, à la télévision, pour faire comprendre à la jeune génération ce qui s'est passé. Ça fait partie aussi de ce traumatisme qu'ont vécu les Algériens, qui ont peut-être empêché le film de se tourner en Algérie vraiment, puisqu'il a été tourné au Maroc.
Moi je pense, mais de toute façon c'est les dégâts de la colonisation hein, finalement aussi. C'est les dégâts d'une guerre, mais avant la guerre c'était la colonisation. Et tout ça c'est insupportable. Comment des gens se sont servis d'autres pour faire de l'argent, etc. C'est quand même tout ça.
Et comment obtenir effectivement une autorisation de tournage en Algérie pour raconter cette histoire traumatisante pour tout un peuple?
Voilà.
Bon, bah Catherine, on vous souhaite en tout cas plein de belles choses et des hommes. Eh bien, ça sort mercredi au cinéma. Catherine, merci d'avoir été avec nous. On va recevoir la jeune génération qui a incarné justement Gérard Depardieu, Jean-Pierre Darroussin, jeune. Ils ont plein de choses évidemment à nous raconter sur cette expérience de tournage, j'en suis sûr. On va écouter la bande-annonce et puis merci encore à vous.
Merci.
À l'Algérie. Je pense à nos 20 ans.
On ne s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait.
Depuis toujours, c'était comme ça.
Ils sont tous là, à part les morts.
Bernard, arrête.
Oui, bien sûr, qui peut être là, le crouille.
Tais-toi.
Fous le camp.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé pour nos spéciales des hommes. Après Catherine Fro, je vous l'avais promis, la jeune génération, eh bien, est avec nous pour nous parler. On a Johan Zimmer qui joue Gérard Depardieu. Jeune, bonjour Johan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a également Félix Kissil qui est avec nous. Bonjour Félix.
Bonjour.
Qui joue le rôle de
Février.
Février, voilà, c'est facile, c'est le deuxième mois de l'année.
Exactement.
Voilà, et on a également Édouard Sulpice. Bonjour Édouard.
Bonjour.
Qui joue le rôle de Jean-Pierre Darroussin.
Oui.
C'est ça, jeune aussi. Merci à tous les trois d'être avec nous. Moi, j'ai pu voir le film en avant-première au Festival d'Angoulême fin août. Et vous offrez une belle partition et en même temps, vous offrez aussi une mémoire de cette guerre qui a été très peu traitée finalement en fiction. Édouard, est-ce que tu avais déjà vu des films qui traitaient un peu de la guerre d'Algérie ou...
Non, j'en avais pas vu. J'en avais pas vu. Moi, je sais que j'avais lu le roman très tôt, quand j'étais jeune, et ça m'avait... Enfin, quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans.
Oui, il n'y a pas si longtemps alors.
Ou peut-être plus quand même, 18 ans, je pense. Et ça m'avait marqué. Et même, je faisais déjà du théâtre à l'époque, et je me disais, tiens, ça c'est un texte qu'on pourrait faire au théâtre. Même, j'avais passé un bout de texte, d'ailleurs, au Conservatoire de Lyon à l'époque, parce que je suis vers là-bas. Et c'est bizarre, ça traînait un peu au fond de moi et c'est revenu plus tard.
Comment tu t'es préparé au rôle ?
Mais j'ai pas. Il faut situer le personnage et tout. C'est vraiment des jeunes qui viennent de la campagne très profonde et qui se retrouvent. Pour eux, le village d'à côté, c'est un truc hyper lointain et ils se retrouvent en Algérie, donc ils sont complètement dépaysés.
Ah oui.
Donc c'est un peu dur de faire toute une construction de personnage, de machin et tout. Donc il faut essayer de trouver comment. Moi, Édouard, je trouve ma place là-dedans, comment je trouve une façon d'être là, vraiment moi, dans le film, pour faire passer ce récit, cette mémoire.
T'as pu rencontrer Jean-Pierre quand même ?
Oui, bien sûr, oui.
Parce que même si vous n'avez pas de scène ensemble finalement, mm-hmm. Mais voilà, j'imagine que vous avez pu vous rencontrer, discuter.
Oui, on s'est rencontrés, on a discuté un peu.
T'as donné des conseils ?
Non, puis je n'ai pas osé en demander non plus, non.
Bon, Johan, là, autre partition, hein, c'est le grand GG. Jouer Gérard Depardieu jeune, j'imagine que dans une carrière d'acteur, ça doit être énorme quand on est jeune acteur comme ça.
Ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est assez énorme. Après, moi, je me suis pas rattaché à jouer Gérard jeune, mais à interpréter Bernard. Donc, je me suis pas préparé en pensant à Gérard. J'ai lu le scénario. Comme c'est pas du texte, enfin, c'est du texte, mais c'est pas d'époque, mais c'est quand même un langage. Qui n'est pas notre langage commun. Moi, j'ai plus travaillé le texte avec quelqu'un avec qui je travaille d'habitude pour les rôles.
T'es documenté un peu sur la guerre d'Algérie ?
Je me suis documenté. Ouais. Après, il y a aussi quelque chose que je voulais pas trop imprimer. C'est que le personnage de Bernard, il est assez vierge par rapport à ça quand il arrive là-bas. Mmh. J'ai regardé le soleil de Satan, sous le soleil de Satan, parce qu'il a un côté très catholique, très fermé. Mmh. Il est un peu étroit d'esprit quand il arrive là-bas. Donc moi je trouvais ça intéressant de garder ça en fait, enfin pas moi Johan d'être, mais de pour le personnage de pas être trop documenté en fait, d'arriver là-bas et d'être un peu vierge. Je me suis plus documenté sur la guerre d'Algérie par après pour pouvoir en parler pour ma culture.
Alors Février, on va parler un petit peu du personnage de Février. Félix.
Très bien.
Raconte-nous.
Eh bien.
Comment tu le définirais Février toi?
Alors Février, c'est déjà c'est un personnage que rencontrent Bernard et Rabu en Algérie, directement en Algérie. Moi, j'ai pas d'homologue contemporain, on pourrait dire, sauf une scène 10 ans plus tard. Février, c'est je pense quelqu'un qui a été comme les trois parachutés dans cette guerre d'Algérie parce que appelé et qui ne sait pas trop gérer sa propre existence de base et du coup dans ces conditions-là non plus. C'est un personnage qui va revenir de la guerre d'Algérie en ayant fait des choses qui vont, je pense, le hanter toute sa vie.
C'est sûr.
C'est le prix de sa guerre d'Algérie à lui, en tout cas.
Alors, il y a une scène assez impressionnante entre Johan et... Enfin, entre Grabu et Bernard, où tu lui mets quand même bien, bien sur la
quelques
gueule.
Quelques
pains. Ouais, là c'est même plus quelques pains.
Quelques pains gratuits, ouais.
Dans quel état tu nous l'as mis, Grabu? Comment ça s'est passé, cette scène-là? Comment vous l'avez préparé tous les deux?
Eh ben, d'habitude, il y a un régulier cascade pour ce genre de scène. Là, Lucas, comme il a l'expérience de metteur en scène et d'acteur aussi, il avait choisi qu'il n'y ait pas de régulier. Moi, je trouve ça bien parce que ça peut un peu, ça laisse la scène plus fertile. Enfin, je trouve plus libre pour nous. On l'a répété, on l'a un peu chorégraphié en voyant ce qui était juste à l'image et confortable pour les deux. puis après on la joue. Hein.
Après il faut y aller.
Ouais, moi je fais de la boxe, donc j'ai un peu appliqué les... non mais voilà.
Comment tu l'as vécu, cette scène-là?
Très bien. Oui, non, mais c'est vrai que ça a donné le fait de, qu'il n'y ait pas de sorte de cascade. Et puis de toute façon, vu que ça se faisait beaucoup avec l'espace où on était, en fait, ça aurait été un peu bizarre de le préparer avant dans un autre endroit pour le calquer. Donc ça s'est vraiment fait sur l'instant et en effet, c'était assez... Puis ça s'est bien passé, quoi.
Est-ce que tu as un meilleur souvenir, que ça soit devant ou derrière la caméra, hein? Ça peut être quand les caméras sont éteintes, hein, des soirées sympas, une fin de tournage, n'importe.
Franchement, bah moi, c'est vraiment mon premier film. C'est le premier film dans lequel je jouais. J'étais bouleversé, quoi, par ce qui se passait autour de moi. Donc,
premier jour de tournage, oui, ça devait être quelque chose quand même.
Mais peut-être que finalement, c'est les scènes les plus difficiles, les journées les plus qui paraissent les plus insurmontables, quoi, qui sont finalement les plus beaux souvenirs. Donc, en effet, la scène de tout ce qui s'est tourné ce jour, on a fait cette scène où on se bat avec Bernard. C'est peut-être mon plus beau souvenir. C'est des souvenirs de jeu généralement quand même, je crois.
Johan, ton plus beau souvenir à toi?
Bah, il y en a plusieurs, mais si j'ai un truc là qui me vient en tête, c'est il y a un jour où on tournait en montagne. Du coup, le temps de route pour y aller était assez long, et pour le retour aussi. Et il y a un retour qu'on a fait dans les camions de jeu, où on a galéré pendant une bonne heure à devoir tourner
dans les montagnes marocaines,
où les manœuvres étaient un peu compliquées. On voyait bien le précipice et on était tous derrière. Après, on est descendu du camion, on est rentré en une espèce de 4x4. Toi, t'étais là. Je sais pas, Edouard, je pense que t'étais pas là à ce moment-là. On était plusieurs à l'arrière, c'était une super belle route pendant longtemps. Et il y avait un truc où l'espèce de fraternité entre acteurs et entre partenaires de jeu se créait. C'était un beau moment, c'est celui qui me vient en tête.
Et pour toi, Félix?
C'est vrai que quand j'ai pensé à cette question, j'avais un peu le même souvenir. Ah ouais, c'était vraiment, vraiment sublime. Il y avait le soleil qui se couchait et en fait, on repartait en pick-up avec toutes les armes, tous les bardas et tout ça. Et c'était chouette, quoi.
Merci en tout cas, tous les trois, d'être venus nous voir. Merci. Rappelez-vous de leur nom, Edouard Sulpice, Johan Zimmer et Félix Kizil. Merci à tous les trois d'être venus nous voir. Des hommes, ça sort mercredi au cinéma et on va se requitter avec un petit extrait.
J'ai toujours été comme ça.
Une famille de fous, ça qu'on est. Il nous a même pas présenté sa femme. Il était tellement jeune. Fou furieux. Rigide.
Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler? Tu ferais quoi si on occupait ton pays?
On se bat pour la France.
Il est comme il est, mais il a toujours été gentil avec moi.
Je t'ai écrit tout ça. L'ennui des corvées, ceux qui buvaient jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Les tours de garde, le soleil qui tournait, la chaleur, la poussière. Mais le reste, non.
Et les faits, ils sont où?
Et je ferai jamais.
C'est pas des hommes qui font des trucs pareils, c'est des chiens.
Ça, on peut pas le raconter. Parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le plaisir de recevoir Lilian Renaud qui nous présentera son tout nouvel album. Le gagnant de The Voice nous présentera donc son 4e opus. Nous aurons le plaisir de vous faire partager notre coup de cœur ciné consacré au film Le Discours. Laurent Tirard et Benjamin Laverne seront nos invités. Laetitia Milo également viendra nous parler de Lié pour la vie, son téléfilm événement sur TF1. Et puis bien d'autres surprises évidemment vous attendront encore une fois dans Chute, on écoute la télé.
RVB
FM Radio.
FM Radio.
Allez, n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé. C'est également toute la semaine avec La Quotidienne à 9h15 et 15h30 sur RVB. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Mais pour rester connecté avec nous, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute, on écoute la télé. Vous pouvez également télécharger notre application pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous retrouve également lundi prochain à 15h pour la Grande Hebdo. D'ici là, passez une très belle journée à l'écoute de nos programmes et je vous laisse entre deux bonnes mains avec Christophe Bouillac sur RVB, la radio complice.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac-Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale, porte de la Dordogne, à Cresse.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.